vous avez un peu contribué à organiser cette délégation. Quel est vous votre but en tant que médecin de ce voyage en Irak?
Bon, du point de vue personnel, je suis déjà engagé beaucoup des années dans le secteur du tiers-monde et aussi dans le mouvement de la paix. Par exemple, j'ai assisté à une mission pour la paix en Yougoslavie pendant les bombardements 3 années passées. On était là comme bouclier humain contre les bombes, entre guillemets. Et donc, ça m'intéresse beaucoup. Et l'amitié entre les peuples, je trouve que chacun qui vit dans une place dans le monde a les mêmes droits. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et à cause de l'excuse des droits de l'homme, on force les puissances économiques ici, force beaucoup des pays de vivre dans des circonstances abominables. Et c'est la même chose maintenant, ce qui se passe en Irak, qu'au nom des droits de l'homme et de ne pas suivre les trucs de l'ONU, je pense qu'on est français, oui, de l'ONU, qu'on a imposé l'embargo, qui à ce moment a déjà comme effet un génocide véritable. Je sais que ce mot est très vite utilisé les derniers temps, mais ce n'est pas moi qui utilise les mots, c'est les responsables de l'ONU qui étaient les responsables pour la région de l'Irak, comme le von Sponbeck et Halliday, qui ont démissionné leur tâche parce qu'ils disent on ne veut pas être complice avec ce génocide au nom de ne pas avoir suivi les ONU, oui. Et même en plus, maintenant, on dit que les résolutions de l'ONU qui étaient imposées sont maintenant en ordre, mais on cherche alors de nouvelles excuses pour aller attaquer un pays comme l'Irak. Par exemple, maintenant, on dit que nouveau, on a des capacité d'avoir de produire des armes de destruction en masse, je pense qu'on dit que massive. Et je vous souviens que le ministre de la Défense, dans l'époque de Clinton, disait que l'Irak est maintenant tellement affaibli que ça n'est plus un danger pour ça. Et 2 mois plus tard, on a un nouveau président. Et là-bas, on vous présente, parce qu'on veut attaquer l'Irak, on dit maintenant le contraire, ah, c'est de nouveau un grand danger. Dans ce sens, on veut faire un brainwashing, lavage de cerveau, je pense qu'on dit. Pour l'opinion publique ici, pour leur dire c'est nécessaire pour attaquer de nouveau ce pays, pour finir cette menace. Ça, c'est dégueulasse parce que c'est la population ordinaire irakienne qui souffre pendant 12 ans déjà. L'Irak était un État bien organisé avant, où on avait la médecine gratuite, l'éducation gratuite, où il y avait l'infrastructure, où il y avait de l'eau potable, etc. Tout ça, c'est maintenant déjà pendant des années en danger. Au nom des droits de l'homme, comment on peut défendre
Au nom des droits de l'homme, on
au nom.
viole les droits de l'homme
Oui,
massivement.
si on voit que même UNICEF dit qu'il y a déjà 700 000 des enfants de moins de 5 ans qui sont morts à cause de ça. Alors ça, c'est vraiment un génocide. Si on a des estimes qui disent que c'est qui vont entre 1 million et 1 million et demi de victimes maintenant, des gens qui sont morts, alors je pense que c'est vraiment que ce type de l'ONU qui ont démissionné avait raison en disant je ne veux pas être complice dans cet génocide. Et donc, pour cette raison, je veux assister à ce voyage, même si je sais que ça a quelques risques pour nous, mais c'est minimal en comparaison avec les risques pour la population irakienne.
Il y a apparemment trois axes principaux dans ce voyage, trois buts principaux, vous pouvez les expliquer?
Oui, les trois axes sont, premièrement, nous sommes des inspecteurs de paix, entre guillemets, parce que nous voulons chercher l'information là-bas pour, après, ici, savoir convaincre l'opinion publique ici que cette guerre n'a rien à faire avec les droits de l'homme, au contraire, que cette guerre n'a rien à faire avec les résolutions de l'ONU, mais que cette guerre est premièrement avec des raisons économiques, parce qu'il y a du pétrole dans le sous-sol de l'Irak et que le régime de l'Irak veut augmenter les prix et veut ne pas faire les quatre volontés des puissances occidentaux. Donc, ça, c'est le premier volet. On veut se battre figurativement contre la guerre. On veut donner notre solidarité avec la population irakienne et on veut témoigner quand on est de retour ici pour l'opinion publique ici pour la gagner contre cette guerre. Deuxième volet, l'embargo qui est déjà 12 ans là-bas maintenant, qui a tué 700 000 des enfants déjà, qu'on va récolter de nouveau des extras informations là-dessus. On a des spécialistes et professeurs en santé publique, etc., qui veulent mettre en carte ce qui sont les conséquences, pas seulement pour les enfants, mais aussi dans différents domaines, dans le domaine de la médecine culturelle et d'éducation, les conséquences pour faire un appel pour arrêter cet embargo inhumain, parce que l'embargo, il faut savoir, même les médicaments, ça c'est interdit, les médicaments pour l'angine de poitrine sont interdits parce qu'on dit on peut faire des bombes avec ça.
Oui, c'est de la nitroglycérine, paraît-il.
Oui, mais c'est ridicule. Même des crayons, on dit on a le graphite là-dedans, on peut faire des bombes de graphite.
Donc vous allez aussi violer à très petit niveau cet embargo, en partie par solidarité, pour amener des médicaments et aussi pour un peu attirer l'attention du monde occidental et de ses dirigeants sur votre mission.
Tout à fait. Donc, dans ce sens, nous ne sommes pas neutres, nous voulons être objectifs, mais pas neutres dans ce sens que nous allons seulement voir ce qui se passe, nous allons nous engager pour changer cette génocide, changer les situations pour le peuple irakien. Donc, dans ce sens, nous sommes engagés dans une lutte pour la solidarité pour cette population. Et l'embargo, on va violer dans ce sens parce qu'on va amener des hebdomadaires médicaux, des sidérurgies médicales avec l'information récemment, parce que aussi ça, c'est interdit par cet embargo. Donc, dans ce sens, on va violer cet embargo, mais volontairement et avec plaisir, parce que ça va aider les médecins là-bas pour améliorer leurs connaissances des évolutions plus récemment.
Et donc le troisième volet, c'est l'uranium appauvri.
Oui, parce que pendant la guerre de Golfe, je pense en 90, et on avait utilisé des armes avec l'uranium appauvri. Les responsables de l'OTAN et des États-Unis vont vous dire que ça n'a rien, provoque rien de danger. Les autorités ou les responsables de l'OTAN et même leur service médical disent ça, mais je trouve que c'est très vite qu'on prend cette conclusion. Parce que il faut savoir, on n'ose pas dire que ça a des conséquences parce que ça va leur coûter l'argent, pas pour la population irakienne, mais des soldats, des vétérans de cette guerre de Golfe qui souffrent du syndrome de Golfe, qui veulent alors avoir de l'argent de leurs autorités parce qu'ils disent, c'est en faisant mon travail pour vous que j'ai attrapé une maladie, alors il faut me payer. Donc, de toute façon, ils ne veulent pas. Ça, c'est déjà sûr, à cause des raisons financières, ils ne veulent pas avouer qu'il y a un danger. Mais je peux quand même vous dire que l'armée française, maintenant, ils ont pris une décision qu'on va dire, on ne va plus utiliser des armes avec l'uranium appauvri où nos propres soldats sont là. Donc, de cette façon, on dit indirectement qu'il a un danger. Mais ça provoque un danger, pas seulement pour les êtres humains, parce que maintenant on parle des soldats de l'OTAN, etc., et de l'Amérique, mais surtout pour la population irakienne qui vit jour après jour dans ces circonstances et qui maintenant, il y a déjà un chiffre très augmenté des cancers abnormaux. On a des enfants anophtalmiques, ça veut dire qu'ils sont nés sans yeux, avec des abnormalités avec les bras et les pieds, etc. Ça, on voit avec des chiffres plus augmentés que normal. Et donc, en dehors de ça, ça a une influence pour l'environnement, qu'on ne sait pas encore les conséquences complètement,
L'eau potable, etc.
l'eau potable, etc. Mais on a avec nous des spécialistes, un chercheur canadien dans ce domaine-là, qui est chef d'une équipe qui fait des recherches sur ce domaine. Donc on est bien équipé avec des spécialistes dans différents domaines. Et en plus, on a deux militaires, ex-militaires, un de Britannique et un Français, qui sont maintenant victimes du syndrome de Golfe, qui vont avec nous pour rencontrer là-bas les victimes de syndrome de Golfe, là-bas pour un peu fraterniser et pour s'excuser du fait qu'ils ont été utilisés 10 ans passés ou 12 ans passés pour faire cette guerre. Donc ça, c'est quand même un geste très symbolique. Que pour moi, c'est très très chouette que on peut montrer que même les ex-soldats peuvent maintenant dire à l'opinion publique, on était utilisé pour faire un travail là-bas qui ne servira pas, qui n'a pas servi à la population et ont rien du tout, que ça n'a rien du tout à faire avec les droits de l'homme. Au contraire, que maintenant, si on parle que l'Irak ne peut pas produire des armes de destruction massive, qu'on peut dire l'uranium approuvé les armes comme ça, ça c'est vraiment une arme de destruction massive, même au long terme, parce que ça peut être provoquer des problèmes pour la génération future, parce que ça touche aussi au système génétique des gens. Donc, dans ce sens, on a vraiment trois volets qui sont très intéressants et qui touchent les trois, la population irakienne, pour laquelle on va trouver des excuses pour soi-disant sauver la population et les droits de l'homme, tout ce blablabla. Pour cacher les enjeux, les intérêts qui sont là, on va mettre le brouillard avec les mots droits de l'homme, les productions des armes de destruction massive et tout ce blablabla. Même si je dis que l'ex-ministre de la Défense des États-Unis a dit que l'Irak était tellement affaibli qu'on ne peut plus faire grand-chose, que 2 mois après, quand on dit, bon, on va quand même faire une guerre, donc on va changer l'opinion. Et dans ce sens, on voit. On peut être cynique si on voit les raisonnements, parce que moi j'ai un bouquin qui parle de l'Irak des années 85 où on dit que c'est un État exemplaire dans cette région, bien disant dans cette région, parce qu'il y avait des droits pour les femmes qui ne devaient pas être cachées, qui pouvaient aller à l'université, conduire une voiture et avoir des fonctions très hautes, parce qu'il y a des ministres qui sont femmes. Et par
Et qui
exemple,
combattait le Satan iranien aussi.
oui, et qui à ce moment c'était bien. Parce qu'il combat l'Ayatollah Khomeini. Mais quand on voit la situation en l'Arabie Saoudite, là-bas les femmes ne peuvent pas conduire une voiture, doivent être cachées. On a le charia, on n'a pas même une constitution. Et quand on a volé quelque chose, on a coupé la main. Si on a fait l'amour avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas le mot en français, mais bon, vous êtes jeté les pierres à votre tête jusqu'à vous être morte. Si un jour le régime autocratique de Arabie Saoudite va faire quelque chose contre les intérêts des grands multinationales pétrolières, alors on va voir, quelques jours après, on va voir à CNN et à la média américaine et occidentaux, on va voir violation des droits de l'homme en Arabie Saoudite, et on peut peut-être voir couper un main qui va en slow motion dans la poussière, etc., et qu'on va influencer les gens ici qui disent « Il faut attaquer ce régime ». Maintenant, c'est utile parce que ça défend les intérêts des multinationales américaines, et dans ce sens-là, je veux encore jeter une pierre à la communauté européenne, qui dit qu'ils ont un autre point de vue, mais dans les faits, qui aussi soutient encore, parce que c'était une décision de l'ONU de faire cet embargo, je suis très content qu'on a des parlementaires avec nous et que j'aimerais bien voir qu'après et maintenant qu'ils vont se battre contre cela.
Vous, en tant que médecin, ce serait surtout votre travail concret de médecin, je parle, ce serait surtout aller constater les effets médicaux de l'embargo et de l'uranium.
Oui, mais je vais pas me cantonner à ce sujet parce que la santé, on peut le voir dans une vision ample. Si on a les trucs de l'environnement, ça a aussi des conséquences pour la santé publique. Si on voit le stress que cause une guerre qui peut être là, ça peut provoquer beaucoup de maladies psychosomatiques. Donc, dans ce sens, toutes les choses, l'uranium, la guerre et l'embargo, ont les conséquences sur la santé publique.
Concrètement, à votre retour, qu'est-ce que vous allez faire, vous et en particulier la délégation en général?
Bon, j'espère que tout le monde va faire de son mieux pour faire connaître ce que nous avons vu là-bas au maximum de la population ici. Donc, vous êtes bien invités à nous voir après que nous pouvons faire les constatations que nous avons faites, que nous pouvons les communiquer à l'opinion publique, parce qu'ici, on veut contribuer à l'organisation contre cette guerre planifiée qui sert à des intérêts économiques et pas pour les droits de l'homme.